Florange, Ucange, Dudelange, Ayange, Agondange, Marange, Sylvange, Gandrange, Guénange, Bertrange, Rurange, Rosselange, Clouange, Rumelange, Jeuf, Longwy, Neuve-Maison, Brie, Thionville, Mézières, Moyeux.
Il y a le chiffon rouge, hein, ce qu'on faisait taire, eh ben, il pouvait continuer à s'exprimer. Hein, parce que vous savez que le chiffon rouge a été l'hymne des travailleurs à Longwy. Elle est passée à la radio, après les gens l'ont pris à leur compte, et pour ça, après le chiffon rouge, les gens avec les voitures, sur les voitures, avaient un petit chiffon rouge. La chanson, c'est « Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge ». Hein, accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère. Voilà, bon, c'était quelque chose qui correspondait bien à la lutte des gens.
Le thème de notre émission de ce jour est Florange en 2012, Longwy en 1979, même combat, même cause. En 2013, comme 30 ans auparavant, les mêmes intérêts financiers supérieurs décident de l'arrêt d'activités industrielles sidérurgiques sans se préoccuper un instant des conséquences sur la vie des milliers de personnes qui avaient consacré leur existence à faire consciencieusement leur travail en échange de moyens de vivre et de survivre dans ce monde. Un monde où l'intelligence et la force de travail des citoyens est offerte à des patrons censés être des personnes capables d'assumer leurs tâches et en avoir la reconnaissance obligée. Je vous propose donc de revenir pendant cette émission sur le combat des sidérurgistes de Longwy d'il y a 30 ans. À cette époque, en 1979, les militants de la CGT, pour soutenir et animer leur lutte, avaient eu l'idée de créer et d'animer une radio dite libre à une époque où cela était encore interdit. Nous vous proposons donc de retrouver quelques documents sonores de cette radio qui ont été en 2012 mis à disposition du public à travers la publication d'un travail de recherche dans les archives de cette radio Lorraine Cœur d'Acier, qui eut une vie mouvementée, mais belle, entre le 17 mars 1979 et le 21 janvier 1981, à peine 2 années donc. Mais un historique rapide tout d'abord. En décembre 1978 est annoncé le plan d'Avignon décidé par Bruxelles. Le plan d'Avignon, c'est 22 000 emplois dans la sidérurgie lorraine et dans le Nord supprimés, dont 6 500 à Longwy. En riposte, le 19 décembre 1978, 25 000 personnes manifestent à Longwy-Bas à l'appel d'une intersyndicale CGT, CFDT, FO, CGC. La lutte et la résistance contre ces plans s'organisent avec de multiples actions dans la région. Et on aboutira à ce grand projet d'une grande marche sur Paris le 23 mars 1979, que la mise en service de la radio locale le 17 mars était là pour soutenir. Il y aura à Paris 150 000 manifestants en soutien aux revendications. Je vous propose de retrouver cette manifestation à travers un document sonore de Radio Lorraine Cœur d'Acier, LCA.
Union, action.
23 mars 1979, marche des sidérurgistes sur Paris à l'appel de la CGT qui rassemble 150 000 personnes.
Soyez les bienvenus sidérurgistes, mineurs de fer ou de charbon, travailleuses et travailleurs et populations de Lorraine. Bienvenue également aux enseignants, étudiants, collégiens qui sont ici présents, et en particulier aux 100 jeunes lycéens représentant les comités de coordination permanente de Longwy et de Thionville. Bienvenue à la délégation des commerçants de Longwy, qui ont décidé de fermer leur rideau aujourd'hui pour participer à la marche sur Paris.
Les sidérurgistes de Mécon s'en succéderont.
Radio Lorraine, Cœur d'Acier. Que pensez-vous de ces
manifestations? Avec la CGT!
Allô?
Oui.
Delphino, bonjour.
Salut Marcel.
Tu as du nouveau? tout sens que dans ma voix, il y a du meilleur par rapport à hier.
Oui, on le sent bien.
Bien, alors voilà, je crois que la direction, elle vient sur l'opposition.
La direction de Bertholdi.
De Bertholdi. Alors donc, je rappelle que les camarades chez Bertholdi sont en grève depuis vendredi, et ils s'occupent les lieux donc depuis vendredi. Hein. Et après des négociations donc, par rapport au licenciement, jusqu'à hier soir, la direction donc refusait systématiquement les propositions de la CGT. Voilà qu'aujourd'hui, ils veulent se remettre à table, et c'est eux qui viennent sur nos propositions. À savoir, à moins de délai, c'est-à-dire que les licenciements qui devaient partir hier soir sont reculés d'un mois.
Bon, ça laisse un délai.
Pendant ce temps-là, il va y avoir donc les élections de délégués du personnel dans l'entreprise, donc lundi prochain. Ce qui permettra aux travailleurs de chez Bertholdi de mieux s'organiser et voir donc l'avenir. Par rapport à cela, j'y ajoute que les travailleurs de chez Bertholdi s'opposeront à tout licenciement. C'est-à-dire que si dans un mois, M. Bertholdi, donc la direction, elle, repropose par l'intermédiaire de l'inspection du travail les licenciements, les travailleurs, donc, se battront de nouveau contre les licenciements. Donc, je crois que ça méritait qu'on le dise. Car ces camarades-là, qui sont en lutte depuis bientôt une semaine, obligent la direction à venir sur leurs propositions, donc, et celles de la CGT. On attend la direction, donc, dans 5 minutes ou 10 minutes, pour, donc, une dernière mise au point, mais les choses vont se décompter, comme je viens de le dire. Voilà, Marcel.
Bien, Delfino. Alors, Jean veut te poser une question, je te le passe, hein.
Salut aux collègues.
Salut Jean.
D'Ivoire, parce que là dans cette affaire, la responsabilité de l'entreprise est écrasante. Hein.
Absolument.
N'as-tu pas l'impression qu'il bénéficie quand même de complicité? Je veux dire que ces licenciements, ils ont été annoncés alors que la procédure légale n'a jamais à aucun moment été respectée. Alors, qu'en pense l'inspecteur du travail?
L'inspecteur du travail, disons qu'il nous avait dit vendredi dernier que les licenciements, le processus devait s'engager hier soir, c'était officiel ça, hein, mais que de vendredi à lundi, la direction pouvait négocier avec la CGT et les travailleurs chez Bertholdi. Donc à partir de là, si la direction intervenait auprès de l'inspection du travail en disant voilà, arrêtez toutes les mesures de licenciement, donc lui ne voyait pas d'inconvénient.
Bon, alors pour que l'inspecteur du travail accorde la demande de licenciement, il faut quand même qu'il procède à un certain nombre de vérifications, notamment voir les comptes de l'entreprise. Alors qu'il était d'accord pour accorder le licenciement, parce qu'il n'a pas dit qu'il était en désaccord, il n'avait pas pris la peine de consulter les comptes, puisqu'aussi bien aujourd'hui, alors que personne ne travaille, de l'argent ne rentre pas à l'entreprise, la direction revient en arrière.
Alors il y a quelque chose qui est vachement en contradiction par rapport à ce qu'elle dit la direction. Que la direction elle-même, avant d'hier, donc a dit qu'au niveau des finances, les choses n'étaient pas si mauvaises que ça. Alors là aussi, hein, donc ça démontre bien que la direction veut profiter d'une politique générale, qui est celle qu'on connaît, qui découle donc de ce gouvernement, qui veut à tout prix brader notre économie et la dépendance nationale, et appliquer donc les mesures donc de licenciement qui découlent donc de la décision qui a été prise à Bruxelles par le vicomte d'Avignon.
Sans la lutte des travailleurs, le ministère...
La lutte des travailleurs, alors là j'appelle, c'est que seule la lutte unie des travailleurs empêchera les licenciements.
Voilà.
Il faut le dire.
Sans cette lutte, le ministère du Travail, complice avec le patronat, laissez faire.
Sans la lutte des travailleurs de Bertholdi avec la CGT, il y aurait eu, dès aujourd'hui, donc 150 licenciements chez Bertholdi.
Eh bien, bravo les gars. Vive voilà. La CGT.
Salut.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles. Tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Dirait le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. J'voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
L'emploi ici, de père en fils, à ce moment-là, hein, vous alliez à l'usine, de père en fils, c'était leur vie, il n'y avait que ça. Vous ne saviez faire que ça. L'eau fournisse, l'acieriste, ils n'avaient que ça comme formation. Et ils nous ont, comment dirais-je, enfermés là-dedans. Donc, vous n'existez que par ça. Et les patrons, ils sont pas bêtes, les patrons. Ils jouent avec ça.
Si on veut sauver l'usine de l'ennui, eh bien, vous vous rassemblez tous ensemble, comme un seul homme, dans l'usine de Senel aujourd'hui. Et dès que nous revenons de Metz, on vous fera un compte rendu, et c'est vous tous qui déciderez de la suite à donner à notre lutte, camarade.
Et la Lorraine tiédissa, et le soleil se faisait chaud. C'était l'été qui jaunissait les foins coupés et les coteaux. C'était l'été 76, j'étais d'un passible beau temps dont le souvenir. j'ai peur est-elle en boîte du temps passé, du révolu, tant du chômage, de la poisse, le temps des usines perdues. Faut-il accepter la violence des maîtres de l'économie? Faut-il assumer l'insolence de ceux qui mènent le pays? Lorraine abandonnée, faut-il la laisser dépérir, saigner à blanc, démanteler, faut-il donc la laisser mourir?
La radio vit son quotidien en restant au cœur du mouvement. Mais le pouvoir n'apprécie pas cette liberté d'expression sur les ondes et la brouille régulièrement. Et le 17 mai 1979, en fin de journée, face à cette situation exaspérante, les journalistes annoncent l'arrêt des émissions. Aussitôt, la population se mobilise pour refuser cet arrêt et se retrouve à quelques 2000 personnes sur le site du relais de télévision du Bois de Chat pour exiger la fin du brouillage. Les CRS les y attendent et déclenchent la répression à coups de grenade. Les heurts seront violents et les attaques aussi dans la ville de Longwy. Les banquiers en frémissent encore. Dans le document qui va suivre, vous allez entendre des échos radiophoniques d'alors de ces événements.
Oui, c'est-à-dire qu'on avait mis la radio sous la protection des sidérurgistes et de la population de Longwy.
Un morceau de chiffon rouge.
C'est-à-dire que là, ça a été une des nuits les plus chaudes de Longwy. Bon, ben, les gens sont en colère, on est redescendu à Longwy bas. Et là, ça a été... les banques ont brûlé, l'agence du Républicain Lorrain qui a été saccagée, ça a été vraiment là, les gens se sont libérés totalement de leur frustration.
Et lorsque les flics étaient annoncés quelque part, immédiatement, les clochers des églises sonnaient, parce que la plupart des curés étaient dans la lutte aussi, et les sirènes des usines. Tout démarrait. Et dans les 5 minutes, il y avait 3000 personnes devant la radio. Les flics n'ont jamais pu mettre les pieds. Jamais.
Enfin, de toute façon, si vous avez des ennuis avec vos petits camarades en face, ben, on peut toujours monter donner un coup de main. Hein.
Oui, en fait.
Écoutez, c'est à vous de voir, hein, mais effectivement, il y a beaucoup de bruit là autour du studio.
Oui, ben, si ça dure un peu trop longtemps, vous nous appelez, on arrivera.
Bien, ça, il est difficile de continuer l'émission qui pourtant intéresse des milliers de travailleurs ici dans le bassin dans des conditions pareilles.
Oui, bah à ce moment-là, on peut tout de suite monter. Hein.
Oui, je crois qu'il vaudrait mieux, les camarades, venez voir ici pour qu'on puisse continuer dans de bonnes conditions.
Et voilà.
Allons les gars, il faut y aller, si nous voulons nous libérer. Allons les gars, il faut y aller, faut pas nous laisser diviser. Eh, 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 allons les gars, il faut y aller, si nous voulons vivre pour de vrai. Allons les gars, il faut y aller, il faut nous rassembler.
Cadre ingénieur et ouvrier, sommes tous dans le même panier. Les richesses que nous produisons ne servent qu'à engrosser les fortunes et les capitaux déjà accumulés. Toutes les couches sont touchées, le capital doit rappeler tout ce qui peut lui rapporter, même jusqu'à brader toute la nation et ses intérêts.
Allons les gars, il faut y aller, si nous voulons nous libérer. Allons les gars, il faut y aller, faut pas nous laisser diviser. Allons les gars, il faut y aller, si nous voulons vivre pour de vrai. Allons les gars, il faut y aller, il faut nous rassembler.
Même les artistes pas mieux logés n'ont pas tous vie dorée. On nous aime bien mais bouche liée, ou alors faut vanter les idées des privilégiés et celles de leur vallée. Le patronat a bien compris que l'union fait la force. En plus de la concentration, ils nous volent les fonds versés pour la vie de la nation.
Allons les gars, il faut y aller, si nous voulons nous libérer. Allons les gars, il faut y aller, faut pas nous laisser diviser. Allons les gars, il faut y aller, si nous voulons vivre pour de vrai. Allons les gars, il faut y aller, il faut nous rassembler.
Mais le capital a du mal pour gérer sa société. Il engendre même des scandales, c'est plein de coups fourrés, c'est sa crise généralisée dont il voudrait nous accuser. La lutte de classe que nous prônons n'est pas une invention, mais bien une réalité qui nous fait nous organiser pour la changer, cette société.
Allons les gars, il faut y aller, si nous voulons nous libérer. Allons les gars, il faut y aller, faut pas nous laisser diviser. Allons les gars, il faut y aller, si nous voulons vivre pour de vrai. Allons les gars, il faut y aller, il faut nous rassembler.
Florange, en 2012, c'est Mittal. Une différence avec 30 ans auparavant, c'est que ce n'est même plus l'État ou l'Europe qui liquide, mais un financier privé, exploiteur dans le monde entier, qui entend bien liquider une activité historique et rentable jusqu'à son arrivée, au profit de la finance mondialisée, celle qui prospère depuis les paradis fiscaux. Un gouvernement de gauche molle, confronté à une décision unilatérale d'un groupe industriel qui s'est jusque-là gorgé des subventions et des aides directes et qui entend ne devoir rendre aucun compte à ses généreux bienfaiteurs. Un gouvernement fraîchement élu est nommé pour défendre les intérêts des travailleurs et qui va s'en affranchir au nom d'une modernité qui est de se plier à toutes les exigences des soi-disant marchés en refusant des mesures radicales pourtant venues de son sein, à savoir la nationalisation, même provisoire, qui aurait permis de reprendre la main sur le dossier et de sauver l'emploi de la filière acier. Par ailleurs, Mittal s'est fait une réputation et de gros profits en spéculant tout à fait légalement sur les quotas de CO2 qu'il revend sur le marché en arrêtant les exploitations qu'il avait acquises et qui, de cette manière, lui rapportaient beaucoup plus qu'en les faisant produire. La couche d'ozone n'intéresse Mittal qu'à l'aulne des pépettes qu'elle peut rapporter.
La terre prend l'eau et perd du sang. Le monde est un incontinent. Que ce soit l'ozone ou l'azote, ça fuit dans la couche culotte. Atmosphère, atmosphère,
t'as vu la gueule de l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, t'as vu la gueule de l'atmosphère. T'as de beaux cieux, tu sais, t'as de beaux cieux, faudrait les repeindre en bleu. Et si tu t'accroches à la terre, j'enlève l'échelle de Richter. Atmosphère, atmosphère, t'as vu la gueule de l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, t'as vu la gueule de l'atmosphère. De catastrophe en scénario, depuis qu'on divise les noyaux, un jour viendra l'ultime atome. Bonjour la planète fantôme. Atmosphère, atmosphère, t'as vu la gueule de l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, t'as vu la gueule de l'atmosphère. L'effet de certitude, étouffé dans nos habitudes, ça fermente sous le bouchon. On va faire péter l'horizon. Atmosphère, atmosphère, t'as vu la gueule de l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, t'as vu la gueule de l'atmosphère. Atmosphère, t'as vu la gueule de l'atmosphère.
Je vous propose maintenant de retrouver un entretien extrait d'une émission de LCA, Lorraine Cœur d'Acier, l'émission Passé-Présent du 11 avril 1979. Il s'agit d'un entretien avec un syndicaliste sidérurgiste, Sylvain Poli, qui a dû naître aux environs de 1914. Il est donc âgé de quelque 65 ans au moment de cet entretien. Et nous distille, en su d'informations intéressantes, quelques réflexions qui sont toujours d'une brûlante actualité.
Combien vous étiez d'enfants ?
On était à 5 enfants. On était à 5 enfants, 3 garçons... Et deux filles.
Trois garçons, deux filles. Je pense, comment ça se passait alors? Ça ne devait pas être facile à cette époque où...
Bien non, c'était pas facile. Mon père, il est retourné en Italie pendant la guerre pour accomplir son service militaire. Et aussitôt son service militaire terminé, il est revenu en France reprendre le travail de mineur. Là, il est venu à Crune.
Toujours à la mine.
Toujours à la mine, parce que les travailleurs immigrés, comme on fait d'ailleurs actuellement, beaucoup de travailleurs, ils ont les travaux les plus durs, et le métier de mineur n'était occupé en partie à l'époque que par des ouvriers italiens, immigrés italiens. C'était très pénible. D'ailleurs, mon père, quand il revenait, il était naturellement, il était toujours très très fatigué. Mais... mon père, c'était un vieux militant socialiste italien de l'époque. Et quand il est arrivé à Crune, il a continué à militer. Il a continué, il s'est mis dans l'organisation et il est devenu un parmi d'autres responsable syndical tout en étant étranger. Et je me souviens, j'étais très jeune, j'avais 7 ans, et... j'accompagnais mon père, ça me plaisait, d'accompagner mon père dans les réunions. Les réunions ne se faisaient pas comme actuellement ici, on n'avait pas de salle appropriée, etc. Les réunions se faisaient dans les cafés autour d'un verre de vin. Et le responsable syndical, il montait sur la chaise et il commençait à haranguer ses camarades pour leur donner... faire le compte-rendu des discussions ou les appeler à des actions pour améliorer déjà leurs conditions de travail et de vie. Et moi, je faisais le porte-à-porte, déjà à l'âge de 7 ans, auprès
des mineurs,
pour distribuer le journal. Déjà là, par l'activité de mon père, ça m'a éclairé. Et naturellement, chez les mineurs comme partout, d'ailleurs, ils ne gagnaient pas des masses d'argent comme on pouvait croire. Parce que la famille des mineurs à l'époque, moi je me souviens très bien, le souper du soir, c'était le bol de café, ou souvent de fois la trompette dans le café, ou quand il y avait du beurre ou de la confiture, on prenait le beurre et la confiture. Mais c'était pas ce qu'on pouvait croire. On laissait pour le père, quand on pouvait avoir le morceau de viande, on laissait pour le père qu'il puisse aller, lui, reconstituer ses efforts pour aller travailler à la mine. Et nous, les enfants, on était bien obligés. On mangeait ce qu'il y avait, mais c'était pas la grande...
C'était pas l'opulence.
C'était pas les grands repas.
Mais tu allais quand même à l'école, tu avais 7 ans.
Oui, j'allais à l'école avec Accrune, j'ai suivi mes études jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais mon père était souvent malade. Il était souvent malade, il a été souvent hospitalisé en tant que mineur. Et ma mère était obligée à l'époque de faire les ménages pour subvenir aux besoins de la famille.
Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de garantie sociale en fin de journée.
Il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait pas ces garanties actuellement comme il existe actuellement, parce que ces garanties, il faut que les ouvriers le sachent. C'est la lutte des travailleurs qui les ont obtenues dans toute une vie. Elle a commencé déjà bien avant 1920, elle a commencé en 19 avec la lutte des mineurs, etc., la lutte des sidérurgistes qu'il y a eu un peu dans toute la France, qui a permis d'obtenir ces avantages sociaux que nous avons actuellement. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et alors, mon père qui travaillait à Micheville, eh bien, un jour, on nous l'a ramené à la maison, il était décédé. Alors nous étions tous petits, enfin moi j'avais pas tout à fait encore 16 ans, j'avais un frère qui était beaucoup plus jeune que moi, j'en avais un autre qui était un peu plus
jeune. C'était toi l'aîné de la famille ?
Non, c'est une de mes sœurs qui était née. Mais il faut dire que mes frères et mes sœurs, pour survenir du fait que mon père était souvent malade, bien je peux dire que ma sœur à 12 ans, elle était servante. Il fallait qu'elle monte sur un tabouret pour faire la vaisselle chez des particuliers. Que mon frère, qui a 12 ans également, eh bien, il allait garder les vaches, comme on disait à l'époque, chez les cultivateurs pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et moi, qui étais le troisième, bon, j'ai continué à aller à l'école. Et à 12 ans, j'étais obligé de quitter mon apprentissage pour aller travailler à la production pour apporter un salaire meilleur à la maison.
Quel a été ton premier travail ?
Bien, mon premier travail, je suis arrivé ici à Longwy. Je me suis embauché comme magister à Mont-Saint-Martin.
Aux aciéries de Longwy.
Aux aciéries de Longwy de l'époque.
Vous faisiez combien d'heures par semaine ?
Bien, on faisait 56 heures.
56 heures par semaine.
56 heures par semaine.
Et évidemment, il n'y avait pas encore de congés payés.
À l'époque, il n'y avait pas encore de congés payés. Non. C'est après seulement la lutte des travailleurs que les congés payés sont venus. Et il y a eu le 1er mai. Le 1er mai, eh bien, c'était une tradition. J'ai voulu participer au 1er mai avec ceux qui avaient le courage à l'époque d'y participer.
C'était ton 1er mai ?
C'était mon 1er mai et mon premier licenciement.
Dis-moi, Sylvain, le 1er mai à cette époque-là, c'était pas férié ?
Non, pas du tout.
Alors, à l'époque, qu'est-ce que vous faisiez alors pour participer ?
Eh bien, on prenait, on ne travaillait pas, on n'allait pas travailler, on prenait le risque de participer au 1er mai sans aller travailler, ce qui a donné le prétexte à la direction de mon premier licenciement. Puis sont venus, sur le plan national, bon, il y a eu 34,
la crise,
j'étais dans l'armée, la crise qui sévissait ici dans notre bassin. Il y avait de nombreux chômeurs, et qui à l'époque n'étaient pas rémunérés comme actuellement.
Il
n'y avait aucune indemnité. Là aussi, il faut que les jeunes ils sachent que si maintenant il y a ces indemnités de licenciement ou ces indemnités de chômage, c'est grâce à l'action des travailleurs pendant des années et des années, même si à une époque ça ne donnait pas ce qu'on aurait pu espérer, mais ça a permis de venir en 79 avec des avantages sociaux que l'on connaît actuellement et qu'il faut se battre pour pouvoir les conserver. Ils ont été arrachés. Une revendication par revendication et par des années de lutte. Ce qui veut dire, et l'expérience prouvant, que lorsque nos jeunes camarades, quand on leur demande d'être délégués du personnel ou prendre des responsabilités aux moins jeunes, on nous dit ben, il faut avoir un bagage politique ou il faut connaître ci, il faut connaître ça, c'est pas vrai. La première chose pour être un militant, c'est d'avoir confiance dans la classe ouvrière. Et de faire confiance à la classe ouvrière. C'est l'élément principal pour mener toutes les actions à bien.
Et mériter aussi la confiance.
Et mériter la confiance des travailleurs. Alors, avant 36, les patrons disaient, on ne peut pas payer. Il n'y a pas de travail. Un peu comme maintenant. Il y a l'Allemagne qui nous fait concurrence, les faïenceries allemandes ou italiennes font concurrence, ils font moins cher que nous, etc. C'était exactement... Ils n'ont pas changé d'argument. Les arguments sont toujours les mêmes, c'est la concurrence étrangère. Et on nous disait ça, mais on n'y croyait plus. On n'y croyait plus. D'ailleurs, la preuve a été faite, puisque en 36, après ces événements, il y a eu les 40 heures, il n'y avait pas de chômage, bien au contraire, ils ont été obligés d'embaucher. Il y a eu les congés payés, il y a eu les salaires qui ont doublé, il n'y a aucune boîte, aucune entreprise. C'est les faïenceries de l'Anhui qui pleuraient misère depuis des années et qui encore pleurent misère chaque fois maintenant qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils pratiquent, ils pleurent toujours pour faire voir le déficit de la balance commerciale, etc., pour faire voir aux travailleurs qu'ils n'y arrivent pas. Mais quand des travailleurs ils l'imposent, d'ailleurs en 48 ça a été la même chose, quand les travailleurs l'imposent, eh bien ils n'ont pas fermé les usines. Les usines ont tourné plus que jamais, le pouvoir d'achat il a augmenté et on a travaillé dans des conditions normales, avec des salaires, disons à l'époque, qui nous donnaient un peu de beurre sur les tartines.
Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Allons droit devant vers la lumière, en montrant le poing et en serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière et demain, nos matins chanteront. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas enfin pouvoir le porter, le chiffon rouge. Que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi, Carrie. Tu crevais de faim dans ta misère, tu vendais tes bras pour un morceau de pain, mais ne crains plus rien.
jour se lève et il fera bon vivre demain. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas enfin pouvoir le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie.
Et on a découvert ce que ça voulait dire avoir la parole et parler. Et en particulier, je pense, surtout chez les femmes, parce que les femmes de sidérurgistes, avant tout, elles, si vous aimez mieux, elles allaient à l'école ménagère, elles se mariaient, et après, elles faisaient la cuisine, les enfants, le ménage, elles étaient cantonnées. Moi, j'appelais ça le repos du guerrier. C'est-à-dire que quand le mari arrivait à la maison, tout était propre, on faisait la musette, on s'occupait des enfants, parce que c'était les 3-8. Hein. 40 ans, mon mari, les 3-8. Hein. Et quelquefois, c'était 280 heures par mois. Ça, c'était le minimum. Ça arrivait à 320 heures. Parce que quand il fallait faire du fer, pendant 30 ans, ça a bossé. Hein. Il y avait les heures supplémentaires, là. C'était pas travailler plus pour gagner plus. Hein. Il fallait le faire parce que c'était comme ça. Et puis voilà. Alors, cette radio, ce qu'elle a permis, je crois, surtout aux femmes, à découvrir qu'elle existait autrement que d'être la ménagère à la maison, qu'elles avaient découvert. Alors, c'était créé où j'ai beaucoup milité, un collectif. C'était au moment où on parlait de la contraception. Ça s'appelait CAS, contraception, avortement, sexualité. Et là, on a découvert ça, que des femmes avaient un corps, qu'elles avaient des besoins sexuels. Je pense qu'elles n'avaient pas découvert jusque-là. On a été un peu avant, moi, parce qu'à l'association familiale, on en discutait quand même un petit peu avant. La pilule, tout ça, on en discutait depuis un moment. Mais là, c'est des femmes qui n'en avaient jamais entendu parler, qui l'ont découvert. Et moi, j'ai fait rire. Oh, ben, Marcel Triel a dû vous le raconter. J'avais dit que le patron m'avait volé un tiers de mes nuits d'amour parce que Bruno avait travaillé une semaine sur 3 de nuit. J'avais fait rire tout le monde avec ça, mais quand on y pense bien, c'était quand vous avez 4 enfants, le mari doit dormir la journée, c'est pas évident. Hein. Voilà, c'était comme ça.
Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver, et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes, et brisaient le silence. Oh, les jolis printemps, au parfum de lilas, devant nous se levaient des matins d'innocence. Plus jamais il n'y aurait d'humiliés, de parias, plus jamais d'esclavage, et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Aujourd'hui, les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas. Les voyous brassent l'or, les bornés sont ministres, et on met chapeau bas devant les renégats. L'époque est au commerce, l'époque est aux combines. L'homme n'est qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines, cependant qu'au lointain ricane l'argent roi. Je me bats.
Mais à l'Union locale CGT, c'était une majorité de mecs, des mineurs, des sidérurgistes, donc on avait vachement de mal à avoir notre place. Je veux dire, la première fois qu'il y a eu une grande manif de femmes, ça a été en 79, où là on a manifesté. Alors il y avait, vous êtes jeunes vous, je ne sais pas si vous avez connu Christiane Collange qui était écrivain, qui avait fait un bouquin qui s'appelait « Je veux rentrer à la maison » à l'époque là. donc où elle disait qu'il fallait, c'était les premières, le premier chômage, donc il y avait des problèmes, il fallait que les femmes elles rentrent à la maison, qu'on laisse les mecs travailler tranquilles, quoi, c'était à cause des femmes s'il y avait du chômage. Donc nous, si c'est vrai, c'était comme ça. Donc on avait pris comme mot d'ordre, je ne veux pas rentrer à la maison. Et on a fait une manif en 79, le 8 mars donc, avec des casseroles, on tapait dessus, des landaus et tout. Et où on revendiquait le droit d'avoir des enfants quand on voulait, le droit... il n'y avait encore pas tout ça. Nous, on a connu tout ça. Hein. C'était les mouvements féministes à l'époque là qui se battaient, le MLF, pour le droit à l'avortement, pour le droit à la pilule. D'ailleurs, on trouvait qu'on était en retard à la CGT. Hein, parce qu'on avait du mal à avoir notre place, les femmes. Alors là, les mecs, ils nous regardaient de travers. Hein. C'était bien quand on restait dans les revendications générales de la CGT. Mais quand on s'exprimait en tant que femme, les mecs, ils faisaient la gueule. Hein. Ça leur plaisait pas beaucoup. Il fallait rester dans l'orientation générale de la CGT. Donc en 79, quand il y a eu la première manif là, fallait voir la tête des mecs. Hein. Ouh, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Comment les femmes qui se rebellent... ça a été une manif formidable. Je veux dire, c'est à partir de là que ça a un peu éclaté, qu'on a eu que les bonnes femmes, elles se sont pillées. Bon, il y avait Antoinette et Chantal Rogerat qui est venue aussi. C'était le journal féminin de la CGT qui, elle, a aussi fait les premiers articles au niveau des femmes. Alors, les femmes battues, la sexualité, tous ces trucs-là. Donc, les mecs, ils n'étaient pas trop d'accord. C'était dur au niveau des femmes à trouver notre place. C'était vachement dur. Ils occupaient les impôts parce que nous, on avait des tours de garde comme tout le monde. Les mecs occupaient les impôts. On arrive, un copain sidérurgiste, donc nous on était que des femmes militantes, on venait pour notre tour de garde, on faisait nos tours de garde comme partout, tout ce qui était occupé. On arrive et dit « Ah, enfin des femmes, bon, bah, va falloir faire le ménage, faut donner un coup de balai, il y a le café à faire, ça m'est resté, parce que je le répète tout le temps. » Je lui ai dit « Non mais Edouard, tu rigoles, tu te démerdes avec ton café, ton balai, je suis pas venu pour ça. » Et puis on a refusé. Mais voilà, c'était comme ça. Ça, la phrase là, elle m'est restée, j'étais d'une rage. Voilà, c'était ça.
Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas. Même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés aux yeux vidés sans joie. Même si le correct se nomme indifférence, même s'il parle fort ceux qui baissent les bras, je me bats.
Force ouvrière Conforama, travailleurs de Conforama, pour protester contre l'atteinte aux libertés syndicales, l'entrave à l'exercice du droit syndical, le licenciement de la secrétaire du syndicat, la cruauté mentale à l'encontre du personnel, les paroles déplacées de la part du directeur à l'encontre du personnel et les insultes, les pressions en tout genre et l'envoi de blâmes injustifiés, la non-convocation de la représentante syndicale au comité d'établissement, la chasse aux syndiqués, mercredi 4 avril 1979, après-midi, grève générale. Nous avons deux travailleuses de Conforama, je ne vous dirai pas leur nom, vous comprendrez pourquoi. Elles sont venues ce soir au micro de Lorraine Cœur d'Acier, elles ont entendu sans doute l'annonce du conflit que nous avons fait tout à l'heure, vers 5h30, 6h. Alors on va essayer de savoir comment s'est passée cette journée de grève d'abord. Madame.
Très bien, tout le monde a suivi le mouvement au maximum. Disons qu'on est content parce que...
C'est la première fois.
On est venu en aide aux personnes licenciées.
C'est la première.
La première fois, oui.
Alors, pour l'instant, il y a deux licenciements qui sont annoncés, c'est ça?
Ah oui, exact. Mais enfin d'autres, d'après les bruits qui courent.
Oui. Et alors les deux premiers, comme par hasard, ce sont des
représentants syndicaux, oui.
Des représentants du syndicat Force ouvrière. Alors, bon, il y a des choses, il y a des accusations assez graves dans ce tract. Pourriez nous expliquer un peu comment ça se passe concrètement?
Chasse aux syndiqués, je pense, mais autrement, oui, des menaces, disons. Si vous faites grève, vous aurez des avertissements. Si vous faites grève, demain, vous serez licencié. Si vous n'auriez pas fait grève, vous auriez eu des augmentations, enfin, etc., etc.
Qui vous a dit ça?
De la part du directeur, mais par intermédiaire, par personne interposée.
Est-ce que vous êtes allé à Paris manifester?
Ah, bien sûr. Je suis du côté des sidérurgistes, mon mari est sidérurgiste.
Et le directeur, le conforme?
Le directeur, non, sûrement pas.
Non, mais il était d'accord?
Ah non, pas du tout. puisque c'est là qu'il nous a dit que si on faisait grève, on aurait des avertissements. Avertissements, on n'a pas reçu du reste.
On ne se laissera pas faire, quelqu'un le reprendra.
Avec mes simples mots, avec mes pauvres armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes, les mineurs, les canuts, les piou-piou, les sans-droits, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers de boue où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés, et ceux qui n'oublient pas, je me bats.
Ainsi se termine cette émission consacrée au thème Florange en 2012, Longwy en 1979, même cause, même combat. Et à une évocation de Radio Lorraine Cœur d'Acier, qui exista du 17 mars 1979 au 21 janvier 1981. Radio libre de lutte des sidérurgistes de Longwy. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre des documents sonores de Radio Lorraine Cœur d'Acier, extraits d'un document coffret de 5 CD et un DVD intitulé « Un morceau de chiffon rouge » relatant l'histoire du conflit et de la radio, avec un livret édité par et disponible auprès de la nouvelle SA Vie ouvrière, case 600, 263 rue de Paris, 93516, Montreuil, CEDEX. Vous avez donc pu entendre les illustrations musicales suivantes. Tout d'abord, un instrumental du morceau Procourt, interprété par Lino Leonardi. C'est une composition de Marie-Jeanne Jean, un extrait de la bande-son du film Lorraine Cœur d'Acier. Puis, c'était la chanson « Le chiffon rouge » de Maurice Vidalin pour les paroles, Michel Fugain pour la musique, dans l'interprétation de Michel Fugain. Ensuite, vous avez entendu « Les mains d'or », la composition de Bernard Lavillier qu'il interprétait lui-même. Puis, c'était à nouveau le titre « Procourt », paroles et musique cette fois de Marie-Jeanne Jean, interprétée par le groupe Grisou. Toujours un extrait de la bande-son du film Lorraine Cœur d'Acier. Ensuite, Claude Vinci interprétait la chanson de Max Rongier pour la musique, lui-même pour les paroles, Allons les gars. Puis c'est Remo Gary qui, sur ses paroles et sur la musique de Joël Clément, interprétait Atmosphère 1. Ensuite, vous avez entendu la version du Chiffon rouge de Michel Fugain et Maurice Vidalin, par Rosalie Dubois. Puis, pour accompagner les derniers entretiens, trois extraits de la chanson « Je me bats » de Michel Buller, paroles et musique, interprétée par Francesca Solville. Bonsoir. Thank you.
Thank you.